Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le troisième dimanche. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, selon qu'ils ont été transmis par ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le commencement et qui sont devenus serviteurs de la parole. C'est pourquoi il m'a aussi semblé bon d'écrire un récit ordonné pour toi, honorable Théophile, moi qui ai tout scruté avec rigueur en remontant à la source, afin que tu reconnaisses la solidité des paroles que tu as reçues oralement. Rempli de la puissance du souffle spirituel, Jésus revient en Galilée. Des bruits courent à son sujet à travers toute la région. Il enseigne dans leur synagogue et tout le monde fait son éloge. Il vient à Nazareth, où il a été élevé. Selon son habitude, il entre à la synagogue le jour du sabbat. Il se lève pour faire la lecture. On lui remet le livre du prophète Isaïe. Il le déroule et il trouve le passage où il est écrit.
« Le souffle spirituel du Seigneur Dieu est sur moi, car il a fait de moi son Messie pour annoncer un message de bonheur aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux prisonniers et le retour à la vue aux aveugles, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer l'an de grâce du Seigneur. »
Ayant roulé le livre, il le rend au servant et s'assoit. Dans la synagogue, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il se met à leur dire
« Cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui pour vous qui l'écoutez. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
La liturgie rassemble aujourd'hui deux textes qui sont pris dans le récit évangélique de Luc. D'abord l'introduction, le chapitre 1, des versets 1 à 4, et qui est suivie des débuts du ministère de Jésus qui se trouve au chapitre 4. Nous sautons donc par-dessus les chapitres 1 et 2 consacrés à l'enfance, ainsi que tout le chapitre 3 qui raconte le baptême et les tentations. Luc va situer à Nazareth le début de la mission de Jésus, mais notre texte liturgique d'aujourd'hui ne donnera que la première partie de l'épisode Nazareth. Nous aurons la conclusion dimanche prochain. Pour commencer, tentons de dire qui est Luc. La tradition nous le présente comme un compagnon de l'apôtre Paul, et un compagnon qui aurait participé à certains voyages missionnaires de Paul. Les Actes des Apôtres, qui sont le deuxième tome de son œuvre, le premier donc étant l'Évangile, relatent la vie des premières communautés chrétiennes. Certains passages sont rédigés en effet à la première personne du pluriel, en « nous », et on suppose que ces passages relatent les moments où Luc accompagnait Paul. Luc n'a sans doute pas connu personnellement Jésus de Nazareth. Il devra donc se servir d'autres écrits pour composer son évangile. Déjà, vers les années 70, Marc avait rédigé l'évangile. Notre auteur pourra donc le consulter et utiliser aussi d'autres sources dont nous ne possédons plus les documents originaux, soit un recueil de paroles que les spécialistes appellent la source Q, soit des traditions orales qui lui sont propres à Luc et qui formeront les deux chapitres de l'enfance, ainsi que la section qui va du chapitre 9 au verset 51 au chapitre 18. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul présente Luc comme médecin. Vous avez les salutations de Luc, notre ami le médecin. Luc est probablement un Syrien originaire d'Antioche, Antioche qui est alors la troisième ville de l'Empire après Rome et Alexandrie. Avec tout son bagage culturel, Luc entreprend de transmettre le mystère Jésus pour des milieux qui sont étrangers à la foi et à la mentalité juive. Il est lui-même un chrétien qui est issu du monde païen. Il est probablement de classe sociale assez élevée. Son intention et de faire connaître l'Évangile à l'extérieur du peuple juif. Le monde d'alors s'oppose en effet de plus en plus à la foi chrétienne depuis que l'interdiction a été faite aux chrétiens de fréquenter les synagogues. Mais, malgré opposition et persécution, la communauté chrétienne connaît pourtant un réel élan missionnaire. C'est ce que décrit notre auteur dans les Actes.
Cependant, ceux qui avaient dispersé la tourmente survenue à propos d'Étienne étaient passés jusqu'en Phénicie, à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à nul autre qu'aux Juifs. Pourtant, lorsque certains d'entre eux, originaires de Chypre et de Cyrène, arrivèrent à Antioche, ils adressèrent aussi aux Grecs la bonne nouvelle de Jésus Seigneur. Le Seigneur leur prêtait main forte, si bien que le nombre fut grand de ceux qui se tournèrent vers le Seigneur en devenant croyants. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous.
Luc veut faire œuvre d'historien. On verra au chapitre suivant qu'il situe Jésus dans l'histoire de son temps en nommant l'empereur qui régnait alors sur le monde colonisé par Rome.
En ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce recensement eut lieu alors que Quirinus gouvernait la Syrie.
Mais la conception que l'on a de l'histoire à cette époque, est différente de la nôtre. Nous sommes aujourd'hui soucieux de l'exactitude des faits, et parfois jusqu'au moindre détail, quitte à négliger parfois le sens profond de ce qui est vécu par les personnes. Eh bien, il n'en est pas ainsi pour les historiens de l'Antiquité. On cherche alors à donner davantage le sens des événements, quitte à être très souple et approximatif quant à l'exactitude des faits. En outre, n'oublions pas que les évangiles, les récits évangéliques, sont avant tout des catéchèses élaborées à partir de l'événement central de la résurrection de Jésus, et que ces catéchèses veulent aider les nouveaux disciples à mieux connaître et aimer Jésus, à vivre son message selon son esprit. À partir des faits racontés, le lecteur, ou mieux l'auditeur de l'évangile, devra tirer une leçon pour sa propre vie. Ce qui ne veut pas dire que cela ne se base pas sur un fait réel, au contraire, car l'Évangile n'est pas une réflexion philosophique ni un essai moraliste. Il se fonde sur un donné objectif, ce qui a été réellement accompli par cet homme Jésus. Cependant, celui-ci a accompli par toute sa vie une œuvre qui, d'une certaine manière, le dépasse, car elle concerne à la fois Dieu et les humains. Cette mission accomplie par Jésus accomplit elle-même ce que les écrits bibliques avaient annoncé. Il est remarquable que dans le récit de Luc, les deux seuls emplois du verbe « accomplir » se trouvent dans la bouche même de Jésus, d'abord au début de son ministère, lors de sa prédication à Nazareth.
« Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. »
Ensuite, elle le sera après sa résurrection, lors de l'apparition aux 11.
Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Torah de Moïse, les prophètes et les psaumes.
Cet accomplir se poursuit jusqu'à nos jours, car le souffle de Dieu à travers la personne même de Jésus, vivant, ressuscité, inspire encore aujourd'hui les chrétiens et leur permet d'agir en fils et filles de Dieu. Ainsi, grâce à cet accomplissement du Christ, nous bénéficions en notre temps du rayonnement de sa résurrection. Donnons-en un petit témoignage, celui d'une de nos amies qui écrivait « Vivre pour moi, c'est être une personne libre, mais par la grâce de Dieu. Depuis ma tendre enfance, j'ai dû vivre dans la noirceur, j'étais loin de mon Dieu d'amour, je souffrais d'un mal de vivre profondément ancré en moi. Insidieusement, sans que je m'en aperçoive, je voulais être aimé à tout prix. Mais comme ma foi était éteinte, je ne pouvais pas laisser pénétrer l'amour de Dieu dans mon cœur pour qu'il me comble. Aujourd'hui, au contraire, je réapprends à vivre, je réapprends à m'aimer tel que je suis, avec la joie que mon Dieu d'amour m'a donnée. Ainsi, je peux m'épanouir et respirer profondément, tout en laissant tomber les barrières qui m'habitaient et qui m'empêchait de vivre. »
ceux qui furent, dès le début, témoins oculaires et serviteurs de la parole.
Luc, comme les autres écrits chrétiens de l'heure, accorde une importance capitale aux premiers témoins de la vie de Jésus. Oui, redisons-le, l'Évangile n'est pas un traité de morale, mais c'est la transmission d'une expérience, celle de ceux qui ont été les compagnons de Jésus de Nazareth. L'apôtre Jean traduit ainsi cette même réalité.
Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché de la parole de vie, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.
La foi chrétienne n'est pas une idéologie, mais la transmission d'une expérience de vie, celle des apôtres qui ont été les témoins de Jésus, témoins de sa prédication, témoins de sa mort et de sa résurrection. C'est cela que l'on nomme la tradition apostolique. Paul l'exprime bien dans ses lettres aux communautés chrétiennes. Ainsi écrit-il aux Thessaloniciens.
Frères, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées, de vive voix et par lettres.
Et il dira aussi aux Corinthiens.
Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. J'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis.
Ainsi, par le fait de leur contact direct avec la personne même de Jésus, les premiers témoins deviennent des serviteurs de la parole. Ils doivent avoir la fidélité de vrais transmetteurs. Cela se comprend d'ailleurs davantage si l'on fait appel à la coutume juive. De génération en génération, la Torah est transmise de maître en disciple et elle est interprétée pour être gardée vivante. Chaque juif doit être mémoire vivante de la sagesse reçue depuis Moïse. Eh bien, il doit en être de même des chrétiens qui devront se transmettre de génération en génération la parole de Jésus et la garder vivante en l'interprétant à chaque génération sous l'inspiration de l'Esprit.
Lorsque viendra le paraclet interprète que je vous enverrai, il rendra lui-même témoignage de moi. Et à votre tour, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement.
L'Esprit devra faire entrer les disciples davantage dans la compréhension du sens divin de la vie de Jésus. En effet, on n'a pas saisi tout de suite tout le sens des événements qui ont été vécus avec le Maître, et notamment le sens de sa mort tragique sur la croix. Et la résurrection elle-même a été un phénomène qu'on n'attendait pas. C'est l'Esprit de Dieu qui va inspirer les premiers témoins, afin qu'ils deviennent des témoins et des serviteurs authentiques de la parole. C'est en effet ce qui va se passer à la Pentecôte.
Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Ainsi, la foi chrétienne n'est pas d'abord une croyance philosophique, elle concerne une personne et elle naît du témoignage de ceux qui ont vécu avec cette personne. Un témoignage qui prend toute sa force par l'Esprit du ressuscité qui parle au cœur du croyant.
C'est pourquoi il m'a aussi semblé bon d'écrire un récit ordonné pour toi, honorable Théophile, moi qui ai tout scruté avec rigueur en remontant à la source, afin que tu reconnaisses la solidité des paroles que tu as reçues oralement.
Luc s'adresse à un personnage qu'il nomme l'honorable Théophile. Qui est-il ? Eh bien, peut-être un païen converti qui a déjà reçu la catéchèse de l'Église. Mais d'autres voient en lui un païen auquel Luc présenterait un enseignement de la foi chrétienne. D'autres pensent que la situation sociale élevée de Théophile en fait un propagandiste possible de l'ouvrage auprès des païens. Comme son nom signifie « aimé de Dieu », Théophile pourrait être aussi tout simplement un personnage fictif qui représenterait un ensemble de gens, et plus particulièrement des Grecs, auxquels le message de Luc veut s'adresser. Notre écrivain se veut lui aussi un chaînon authentique de la tradition dans ce qu'il va relater à propos de l'homme Jésus. Il dit avoir tout scruté avec rigueur. Ainsi donc, dès la préface de son œuvre, l'évangéliste désire établir un climat de confiance et permettre aux lecteurs de solidifier leur foi en la personne de Jésus, l'envoyé de Dieu. Luc enfin parle d'un récit ordonné. Nous avons déjà dit qu'il ne s'agit pas de ce que nous appellerions l'ordre chronologique, c'est-à-dire la suite exacte des événements tels qu'ils se sont déroulés dans le temps. Prenons un exemple, il est très probable en effet que la venue de Jésus à Nazareth, qui va être racontée au chapitre 4, s'est déroulée un peu plus tard dans la mission de Jésus, mission qui a commencé d'abord dans la région de Capharnaüm. Comme Luc, de même que tous les évangiles, cherchent surtout à rapporter un témoignage sur Jésus, l'ordre dont il parle doit probablement signifier qu'il veut donner un sens aux faits qu'il va décrire et qu'il va ordonner ces événements pour qu'ils nous délivrent toute leur signification pour nos vies. Enfin, remarquons que le style de ce prologue est calqué sur celui des œuvres profanes de l'époque. Et pour cela, donnons un exemple, la dédicace d'un livre écrit par un médecin grec du 1er siècle, Dioscoride.
Bien que beaucoup aient déjà rassemblé des données sur la préparation des médicaments, sur leur efficacité et sur leurs effets, je vais essayer, très cher Arès, de te montrer que ce n'est pas en vain ni sans raison que j'entreprends une pareille étude.
Luc, finalement, n'a-t-il pas voulu montrer un public très large, celui des Grecs cultivés de son temps, que l'évangile de Jésus n'était pas seulement réservé aux Juifs, mais qu'il avait une valeur spirituelle capable d'intéresser tous ceux qui s'interrogeaient sur le sens de la vie et sur la nature de Dieu.
Rempli de la puissance du souffle spirituel, Jésus revient en Galilée. Des bruits courent à son sujet à travers toute la région. Il enseigne dans leur synagogue et tout le monde fait son éloge.
Eh bien, nous voici maintenant donc au chapitre 4 de Luc. Comme chez Matthieu et Marc, Jésus est conduit par l'Esprit divin qu'il a reçu au baptême. Luc insiste sur le fait que Jésus possède l'Esprit dans toute sa plénitude pour accomplir sa mission, et cela malgré les pièges ou les intrigues du diable dont il a été parlé au chapitre précédent, lors des tentations au désert. Ainsi, Luc veut faire découvrir à ses lecteurs que durant toute sa vie, Jésus s'inspire du souffle divin de Dieu, du souffle spirituel de Dieu, souffle qui le fait vivre en intense communion avec la source de la vie qui est Dieu Père. Jésus amorce son ministère public en Galilée et sa renommée grandit. À la différence de Jean le Baptiste, Jésus enseigne dans les synagogues. Alors que Jean accueillait ceux qui venaient vers lui au désert, Jésus au contraire ira au-devant des gens, soit dans leurs assemblées de prière, soit même encore sur les places où ils se réunissent, soit même dans leur maison où il est invité à manger. Mais son enseignement va apporter sur les Écritures un autre éclairage que celui des rabbis de son temps. Il ne se contentera pas d'enseigner à quelques disciples. Il veut nourrir les foules, dont l'Évangile nous dira qu'elles sont pour lui comme des brebis sans pasteur, c'est-à-dire des brebis qui ne trouvent pas de pâturage ou paître où se nourrir. Sa prédication sera simple et forte. Elle dira l'essentiel de la Torah, cette règle de vie donnée par Dieu. Il parlera avec autorité au nom de son Père et non pas comme les scribes. Il traduira l'amour du Père en des gestes concrets, il guérira les malades. Il n'hésitera pas à bousculer les mentalités trop étroites, à remettre en question, en cause, certaines traditions qui n'ont gardé de la Torah que la lettre et non pas l'esprit. Très rapidement, Jésus va rencontrer de l'opposition comme tout vrai prophète, et c'est donc ce que va traduire la visite à la synagogue de Nazareth.
Il vient à Nazareth, où il a été élevé. Selon son habitude, il entre à la synagogue le jour du sabbat. Il se lève pour faire la lecture.
La synagogue, on le sait, c'est le lieu d'assemblée religieuse des Juifs, aussi bien dans les villes de Palestine que dans les colonies juives de la diaspora. On y célèbre le Shabbat par la lecture de la Torah et des prophètes, lecture qui sera suivie d'une sorte d'homélie, si on veut, un commentaire sur l'actualité de ces textes. Tout juif adulte, et on est adulte, on le sait, dès 12-13 ans, peut y prendre la parole, mais les autorités de la synagogue confient d'ordinaire ce soin à ceux qui sont familiers avec les Écritures.
On lui remet le livre du prophète Isaïe. Il le déroule et il trouve le passage où il est écrit « Le souffle spirituel du Seigneur Dieu est sur moi, car il a fait de moi son Messie, pour annoncer un message de bonheur aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux prisonniers et le retour à la vue aux aveugles, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer l'an de grâce du Seigneur. »
Eh bien, par cette citation d'Isaïe, Jésus fait référence tout de suite à l'Esprit qu'il a reçu après son baptême. Après que tout le peuple ait reçu le baptême, Jésus, baptisé, est en prière et le ciel s'ouvre, le souffle spirituel divin descend sur lui. Jésus déclare que ce qui est dit ici s'accomplit. Cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. L'Esprit divin a donné à Jésus une mission. Et cette mission et celle de proclamer l'an de grâce.
Le souffle spirituel du Seigneur Dieu a fait de moi son Messie pour proclamer l'an de grâce du Seigneur.
Et dans la synagogue, on va s'étonner des propos de Jésus sur la grâce. Pourquoi ? Après sa lecture, Jésus a commenté donc ce texte d'Isaïe et il s'est attardé sur la dernière phrase, mais une phrase qu'il n'a pas lue complètement. En effet, Jésus aurait dû lire « Il m'a envoyé pour proclamer l'année de grâce du Seigneur et le jour de la vengeance de Dieu. » Eh bien, Jésus a arrêté la lecture après la première partie de la phrase « Il m'a envoyé proclamer l'an de grâce. » Le jour de la vengeance de Dieu, c'est le jour du jugement que Jean-Baptiste annonçait. Jésus, lui, ne parle ni du jugement ni de la colère de Dieu. Il va s'attarder sur l'an de grâce de Dieu.
Qu'est-ce que l'année de grâce ?
Eh bien, dans le Lévitique, au chapitre 25, la loi de Moïse demande d'organiser une année de grâce tous les 50 ans.
Au jour du grand pardon, vous ferez retentir la trompette dans tout le pays. Vous déclarerez année sainte la 50e année. Vous proclamerez la libération pour tous les habitants dans le pays. Chacun retournera dans ses biens et dans son clan.
Cette loi généreuse demandait donc à chacun d'effacer les dettes de ceux qui devaient. Il fallait que partout on fasse grâce à tous les débiteurs. Par exemple, celui qui avait dû hypothéquer sa terre ou son bétail, car il était trop endetté, eh bien celui-là retrouverait son bien, même s'il n'avait pas encore fini de rembourser l'hypothèque. Il était acquitté de sa dette envers le propriétaire avant terme, et sans aucune condition. Celui qui avait été contraint de se vendre lui-même comme ouvrier sans salaire, celui-là recouvrait sa liberté et sa dignité. Si l'on veut faire des comparaisons à notre époque, décréter une année de grâce, ce serait voir l'épicier déchirer notre note de crédit et notre gérant de banque libérer notre hypothèque, même s'il reste encore plusieurs paiements à rembourser. Ce serait aussi permettre au sans-travail de retrouver une dignité en se sentant utile. Ce serait abolir tous les apartheids, quels qu'ils soient. Cette grâce valait aussi pour les relations avec Dieu. Selon la Torah, si l'on avait été pécheur, on devait réparer en offrant des sacrifices, en faisant des dons au temple, en remboursant ce qu'on avait volé. C'est en effet ce que Zachée fera.
« Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Et si j'ai volé quelqu'un, je lui rends 4 fois plus.
Lors de l'an de grâce, eh bien, toutes les dettes envers Dieu étaient oubliées. On était gracié. On était quitte de toute réparation, acquitté avant d'avoir racheté sa faute. On était pardonné sans autre condition que d'accueillir cette grâce de Dieu. Eh bien, voilà donc la mission exceptionnelle que Jésus a conscience de recevoir du Père. Inviter les gens de son peuple à vivre l'an de grâce. Et il va consacrer sa vie et ses forces à annoncer que le temps présent doit être une continuelle année de grâce, une année de grâce d'une certaine manière reprise tous les ans. Et cela parce que Dieu est le Dieu qui fait grâce et non pas le Dieu qui juge. par l'exemple de toute sa vie. Jésus va donc nous enseigner comment vivre comme Dieu, d'un amour de grâce, de gratuité. Et il y aura comme une attitude test pour vivre de grâce. Et ce test, ce sera l'accueil que nous faisons à tous ceux qui sont sans prestige, sans intérêt, à tous ceux qui sont les rejetés de la société, le pauvre, le malade, la veuve. L'accueil que nous ferons aux pécheurs publics, alors c'était les bergers, les publicains, les prostituées. Car l'accueil de ces gens ne peut être qu'un accueil gratuit.
Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteront en retour et cela te sera rendu. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre.
Et aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, tout baptisé sur qui l'Esprit du Seigneur Dieu est descendu devra pouvoir s'approprier ce que disait son maître il y a 2000 ans. Le souffle spirituel du Seigneur Dieu est sur moi pour annoncer un message de bonheur aux pauvres, pour proclamer le retour à la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés. C'est par le disciple que peut s'accomplir aujourd'hui la volonté d'amour du Père.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez aussi sur Internet, notre adresse www.relaismontroyal.com, relaismontroyal en un seul mot et sans tiret. Vous pouvez également vous abonner aux feuillets ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.
Thank you.